Chapitre 6. Le lendemain, le baron, devenu fou de Madame Marneff, alla voir la cousine Bette, assez stupéfaite en ouvrant la porte de le trouver devant elle, car il n'était jamais venu lui faire une visite. Aussi se dit-elle en elle-même, « Hortense aurait-elle envie de mon amoureux ?» Car la veille, elle avait appris chez Monsieur Crevel la rupture du mariage avec le conseiller à la cour royale. « Comment, mon cousin, vous ici? Vous me venez voir pour la première fois de votre vie. Assurément, ce n'est pas pour mes beaux yeux. »« Beau, c'est vrai, reprit le baron. Tu as les plus beaux yeux que j'ai vus. Pourquoi venez-vous? Tenez, me voilà honteuse de vous recevoir dans un pareil taudis. » La première des deux pièces dont se composait l'appartement de la cousine Bette lui servait à la fois de salon, de salle à manger, de cuisine et d'atelier. Les meubles étaient ceux des ménages d'ouvriers aisés, chaises en noyer foncé de paille, une petite table à manger en noyer, une table à travailler, des gravures enluminées dans des cadres en bois noirci, de petits rideaux de mousseline aux fenêtres, une grande armoire en noyer, le carreau bien frotté, bien reluisant de propreté, tout cela sans un grain de poussière, mais plein de tons froids, un vrai tableau de Terbourg où rien ne manquait, pas même sa teinte grise, représentée par un papier jadis bleuâtre et passé au ton de lin. Quant à la chambre, personne n'y avait jamais pénétré. Le baron embrassa tout d'un coup d'œil, vit la signature de la médiocrité dans chaque chose, depuis le poêle en fonte jusqu'aux ustensiles de ménage, et il fut pris d'une nausée en se disant à lui-même « Voilà donc la vertu !»« Pourquoi je viens ?» répondit-il à haute voix. « Tu es une fille trop rusée pour ne pas finir par le deviner, et il vaut mieux te le dire » s'écria-t-il en s'asseyant et regardant à travers la cour en entr'ouvrant le rideau de mousseline plissé. Il y a dans la maison une très jolie femme. « Madame Marneff, oh, j'y suis !» dit-elle en comprenant tout. « Et Josépha ?»« Hélas, cousine, il n'y a plus de Josépha. J'ai été mise à la porte comme un laquais. »« Et vous voudriez ?» demanda la cousine en regardant le baron avec la dignité d'une prude qui s'offense un quart d'heure trop tôt. « Comme Madame Marneff est une femme très comme il faut, la femme d'un employé, que tu peux la voir sans te compromettre, reprit le baron, je voudrais te voir voisiner avec elle. Oh, sois tranquille, elle aura les plus grands égards pour la cousine de monsieur le directeur. » En ce moment, on entendit le frôlement d'une robe dans l'escalier, accompagné par le bruit des pas d'une femme à brodequins super fins. Le bruit cessa sur le palier. Après deux coups frappés à la porte, Madame Marneff se montra. « Pardonnez-moi, mademoiselle, cette irruption chez vous, mais je ne vous ai point trouvée hier quand je suis venue vous faire une visite. Nous sommes voisines, et si j'avais su que vous étiez la cousine de monsieur le conseiller d'État, il y a longtemps que je vous aurais demandé votre protection auprès de lui. J'ai vu entrer monsieur le directeur, et alors j'ai pris la liberté de venir, car mon mari, monsieur le baron, m'a parlé d'un travail sur le personnel qui sera soumis demain au ministre. » Elle avait l'air d'être émue, de palpiter, mais elle avait tout bonnement monté l'escalier en courant. « Vous n'avez pas besoin de faire la solliciteuse, belle dame, » répondit le baron. « C'est à moi de vous demander la grâce de vous voir. » « Eh bien, si mademoiselle le trouve bon, venez, » dit Madame Marneff. « Allez, mon cousin, je vais vous rejoindre, » dit prudemment la cousine Bette. La Parisienne comptait tellement sur la visite et sur l'intelligence de monsieur le directeur qu'elle avait fait non seulement une toilette appropriée à une pareille entrevue, mais encore une toilette à son appartement. Dès le matin, on y avait mis des fleurs achetées à crédit. Marneff avait aidé sa femme à nettoyer les meubles, à rendre du lustre aux plus petits objets, en savonnant, en brossant, en époussetant tout. Valérie voulait se trouver dans un milieu plein de fraîcheur afin de plaire à monsieur le directeur et plaire assez pour avoir le droit d'être cruelle, de lui tenir la dragée haute, comme à un enfant, en employant les ressources de la tactique moderne. Laisser 24 heures à une Parisienne aux abois, elle bouleverserait un ministère. Cet homme de l'Empire, habitué au genre Empire, devait ignorer absolument les façons de l'amour moderne. Les nouveaux scrupules, les différentes conversations inventées depuis 1830, et où la pauvre faible femme finit par se faire considérer comme la victime des désirs de son amant, comme une sœur de charité qui panse des blessures, comme un ange qui se dévoue. Ce nouvel art d'aimer consomme énormément de paroles évangéliques à l'œuvre du diable. La passion est un martyre. On aspire à l'idéal, à l'infini. De part et d'autre, l'on veut devenir meilleur par l'amour. Toutes ces belles phrases sont un prétexte à mettre encore plus d'ardeur dans la pratique, plus de rage dans les chutes que par le passé. Cette hypocrisie, le caractère de notre temps, a gangrené la galanterie. On est deux anges et l'on se comporte comme deux démons, si l'on peut. L'amour n'avait pas le temps de s'analyser ainsi lui-même entre deux campagnes, et en 1809, il allait aussi vite que l'Empire, en succès. Or, sous la Restauration, le bel Hulot, en redevenant homme à femme, avait d'abord consolé quelques anciennes amies alors tombées comme des astres éteints du firmament politique. Et de là, vieillard, il s'était laissé capturer par les Jenny Cadine et les Josépha. Madame Marneff avait dressé ses batteries en apprenant les antécédents du directeur que son mari lui raconta longuement après quelques renseignements pris dans les bureaux. La comédie du sentiment moderne, pouvant avoir pour le baron le charme de la nouveauté, le parti de Valérie était pris et, disons-le, laisser qu'elle fît de sa puissance pendant cette matinée répondit à toutes ses espérances. Grâce à ses manœuvres sentimentales, romanesques et romantiques, Valérie obtint, sans avoir rien promis, la place de sous-chef et la croix de la Légion d'honneur pour son mari. Cette petite guerre n'alla pas sans dîner au rocher de Cancale, sans des parties de spectacle, sans beaucoup de cadeaux en mantilles, en écharpes, en robes, en bijoux. L'appartement de la rue du Doyenné déplaisait. Le baron complota d'en meubler un magnifiquement, rue Vanneau, dans une charmante maison moderne. Monsieur Marneff obtint un congé de 15 jours, à prendre dans un mois, pour aller régler des affaires d'intérêt dans son pays et une gratification. Il se promit de faire un petit voyage en Suisse pour y étudier le beau sexe. Si le baron Hulot s'occupa de sa protégée, il n'oublia pas son protégé. Le ministre du Commerce, le comte Popineau, aimait les arts. Il donna 2000 francs d'un exemplaire du groupe de Samson, à condition que le moule serait brisé, pour qu'il n'existât que son Samson et celui de Mademoiselle Hulot. Ce groupe excita l'admiration d'un prince, à qui l'on porta le modèle de la pendule et qui la commanda. Mais elle devait être unique, et il en offrit 30 000 francs. Les artistes consultés, au nombre desquels fut Stidmann, décidèrent que l'auteur de ces deux œuvres pouvait faire une statue. Aussitôt, le maréchal-prince de Wissembourg, ministre de la guerre et président du comité de souscription pour le monument du maréchal Montcornet, fit prendre une délibération par laquelle l'exécution en était confiée à Steinbock. Le comte de Rastignac, alors sous-secrétaire d'État, voulut une œuvre de l'artiste dont la gloire surgissait aux acclamations de ses rivaux. Il obtint de Steinbock le délicieux groupe des deux petits garçons couronnant une petite fille, et il lui promit un atelier au dépôt des marbres du gouvernement, situé, comme on sait, au Gros Caillou. Ce fut le succès. Mais le succès comme il vient à Paris, c'est-à-dire fou, le succès a écrasé les gens qui n'ont pas des épaules et des reins à le porter, ce qui, par parenthèse, arrive souvent. On parlait dans les journaux et dans les revues du comte Wenceslas Steinbock, sans que lui ni Mademoiselle Fischer en eussent le moindre soupçon. Tous les jours, dès que Mademoiselle Fischer sortait pour dîner, Wenceslas allait chez la baronne. Il y passait 1 ou 2 heures, excepté le jour où la bête venait chez sa cousine Hulot. Cet état de choses dura pendant quelques jours. Le baron, sûr des qualités et de l'état civil du comte de Steinbock, la baronne heureuse de son caractère et de ses mœurs, Hortense fière de son amour approuvé, de la gloire de son prétendu, n'hésitait plus à parler de ce mariage. Enfin, l'artiste était au comble du bonheur quand une indiscrétion de Madame Marneffe mit tout en péril. Voici comment. Lisbeth, que le baron Hulot désirait lier avec Madame Marneffe, pour avoir un œil dans ce ménage, avait déjà dîné chez Valérie, qui de son côté, voulant avoir une oreille dans la famille Hulot, caressait beaucoup la vieille fille. Valérie eut donc l'idée d'engager Mademoiselle Fischer à pendre la crémaillère du nouvel appartement où elle devait s'installer. La vieille fille, heureuse de trouver une maison de plus où aller dîner, et captée par Madame Marneffe, l'avait prise en affection. De toutes les personnes avec lesquelles elle s'était liée, aucune n'avait fait autant de frais pour elle. En effet, Madame Marneffe, toute aux petits soins pour Mademoiselle Fischer, se trouvait, pour ainsi dire, vis-à-vis d'elle, ce qu'était la cousine bête vis-à-vis de la baronne, de Monsieur Rivet, de Crevel, de tous ceux enfin qui la recevaient à dîner. Les Marneffe avaient surtout excité la commisération de la cousine bête en lui laissant voir la profonde détresse de leur ménage, et la vernissant, comme toujours, des plus belles couleurs. Des amis obligés et ingrats, des maladies, une mère, Madame Fortin, à qui l'on avait caché sa détresse, et morte en se croyant toujours dans l'opulence, grâce à des sacrifices plus qu'humains, etc. « Pauvres gens ! Disait-elle à son cousin Hulot, « Vous avez bien raison de vous intéresser à eux, ils le méritent bien, car ils sont si courageux, si bons. Ils peuvent à peine vivre avec 1000 écus de leur place de sous-chef, car ils ont fait des dettes depuis la mort du maréchal Montcornet. C'est barbarie au gouvernement de vouloir qu'un employé, qui a femme et enfants, vive dans Paris avec 2 400 francs d'appointements. » Une jeune femme qui, pour elle, avait des semblants d'amitié, qui lui disait tout en la consolant, la flattant, et paraissait vouloir se laisser conduire par elle, devint donc en peu de temps plus chère à l'excentrique cousine bête que tous ses parents. De son côté, le baron, admirant dans Madame Marneffe une décence, une éducation, des manières que ni Jenny Cadine, ni Josepha, ni leurs amis ne lui avaient offertes, s'était épris pour elle, en un mois, d'une passion de vieillard, passion insensée qui semblait raisonnable. En effet, il n'apercevait là ni moquerie, ni orgie, ni dépenses folles, ni dépravation, ni mépris des choses sociales, ni cette indépendance absolue qui, chez l'actrice et chez la cantatrice, avait causé tous ses malheurs. Il échappait également à cette rapacité de courtisane, comparable à la soif du sable. Madame Marneffe, devenue son amie et sa confidente, faisait d'étranges façons pour accepter la moindre chose de lui. « Bon pour les places, les gratifications, tout ce que vous pouvez nous obtenir du gouvernement, mais ne commencez pas par déshonorer la femme que vous dites aimer, » disait Valérie. « Autrement, je ne vous croirai pas, et j'aime à vous croire, » ajoutait-elle avec une œillade à la sainte Thérèse guignant le ciel. À chaque présent, c'était un fort à emporter, une conscience à violer. Le pauvre baron employait des stratagèmes pour offrir une bagatelle, fort chère d'ailleurs, en s'applaudissant de rencontrer enfin une vertu, de trouver la réalisation de ses rêves. Dans ce ménage, primitif, disait-il, le baron était aussi Dieu que chez lui. Monsieur Marneffe paraissait être à 1000 lieues de croire que le Jupiter de son ministère eut l'intention de descendre en pluie d'or chez sa femme, et il se faisait le valet de son auguste chef. Madame Marneffe, âgée de 23 ans, bourgeoise pure et timorée, fleur cachée dans la rue du Doyenné, devait ignorer les dépravations et la démoralisation courtisanesque qui maintenant causaient d'affreux dégoûts au baron, car il n'avait pas encore connu les charmes de la vertu qui combat et la craintive Valérie les lui faisait savourer, comme dit la chanson, tout le long de la rivière. Une fois la question ainsi posée entre Hector et Valérie, personne ne s'étonnera d'apprendre que Valérie ait su d'Hector le secret du prochain mariage du grand artiste Steinbock avec Hortense. Entre un amant sans droit et une femme qui ne se décide pas facilement à devenir une maîtresse, il se passe des luttes orales et morales où la parole trahit souvent la pensée, de même que dans un assaut de fleurets prend l'animation de l'épée du duel. L'homme le plus prudent imite alors Monsieur de Turenne. Le baron avait donc laissé entrevoir toute la liberté d'action que le mariage de sa fille lui donnerait. Pour répondre à l'aimante Valérie, qui s'était plus d'une fois écriée « Je ne conçois pas qu'on fasse une faute pour un homme qui ne serait pas tout à nous !» Déjà, le baron avait mille fois juré que depuis 25 ans, tout était fini entre Madame Hulot et lui. « On l'a dit si belle !» répliquait Madame Marneff. « Je veux des preuves !»« Vous en aurez !» dit le baron, heureux de ce vouloir par lequel sa Valérie se compromettait. « Et comment ? Il faudrait ne jamais me quitter !» avait répondu Valérie. Hector avait alors été forcé de révéler ses projets en exécution rue Vanneau pour démontrer à sa Valérie qu'il songeait à lui donner cette moitié de la vie qui appartient à une femme légitime, en supposant que le jour et la nuit partagent également l'existence des gens civilisés. Il parla de quitter décemment sa femme en la laissant seule, une fois que sa fille serait mariée. La baronne passerait alors tout son temps chez Hortense et chez les jeunes Hulot, il était sûr de l'obéissance de sa femme. « Dès lors, mon petit ange, ma véritable vie, mon vrai ménage sera à rue Vanneau. » « Mon Dieu, comme vous disposez de moi !» dit alors Madame Marneff. « Et mon mari ?»«
Cette guenille !»«
Le fait est qu'auprès de vous, c'est cela !» répondit-elle en riant. Madame Marneff eut une furieuse envie de voir le jeune comte de Steinbock après en avoir appris l'histoire, et peut-être voulait-elle obtenir quelques bijoux pendant qu'elle vivait encore sous le même toit. Cette curiosité déplut tant au baron que Valérie jura de ne jamais regarder Venceslas. Mais après avoir fait récompenser l'abandon de cette fantaisie par un petit service de thé complet en vieux sèvres, pâte tendre, elle garda son désir au fond de son cœur, écrit comme sur un agenda. Donc, un jour qu'elle avait prié sa cousine bête de venir prendre ensemble leur café dans sa chambre, elle l'a mis sur le chapitre de son amoureux afin de savoir si elle pourrait le voir sans danger. « Ma petite, » disait-elle, car elle se traitait mutuellement de « ma petite, » « pourquoi ne m'avez-vous pas encore présenté votre amoureux ? Savez-vous qu'il est en peu de temps devenu célèbre ?»«
Lui, célèbre ?
Mais on ne parle que de lui !»«
Ah, bah !»
s'écria Lisbeth. « Il va faire la statue de mon père !» Et je lui serai bien utile pour la réussite de son œuvre, car Madame Montcornet ne peut pas, comme moi, lui prêter une miniature de saint, un chef-d'œuvre fait en 1809, avant la campagne de Wagram, et donné à ma pauvre mère. Enfin, Montcornet jeune et beau. Saint et Augustin tenaient à eux deux le sceptre de la peinture en miniature sous l'Empire.
Il va, dites-vous, ma petite, faire une statue ? Demanda Lisbeth. «
De 9 pieds, commandé par le ministère de la guerre. Ah ça, d'où sortez-vous ? Je vous apprends ces nouvelles-là. Mais le gouvernement va donner au comte de Steinbock un atelier et un logement au Gros Caillou, au dépôt des marbres. Votre Polonais en sera peut-être le directeur. Une place de 2000 francs, une bague au doigt.
Comment savez-vous tout cela quand moi je ne le sais pas ? Dit enfin Lisbeth en sortant de sa stupeur.
« Voyons, ma chère petite cousine bête, » dit gracieusement Madame Marneff, « êtes-vous susceptible d'une amitié dévouée à toute épreuve ? Voulez-vous que nous soyons comme deux sœurs ? Voulez-vous me jurer de n'avoir plus de secret pour moi que je n'en aurai pour vous, d'être mon espion comme je serai le vôtre ? Voulez-vous surtout me jurer que vous ne me vendrez jamais, ni à mon mari, ni à Monsieur Hulot, et que vous n'avouerez jamais que c'est moi qui vous ai dit ?» Madame Marneff s'arrêta dans cette œuvre de picador, car la cousine bête l'effraya. La physionomie de la Lorraine était devenue terrible. Ses yeux noirs et pénétrants avaient la fixité de ceux des tigres. Sa figure ressemblait à celle que nous supposons aux pythonisses, et elle serrait ses dents pour les empêcher de claquer, et une affreuse convulsion faisait trembler ses membres. Elle avait glissé sa main crochue entre son bonnet et ses cheveux pour les empoigner et soutenir sa tête devenue trop lourde. Elle brûlait. La fumée de l'incendie qui la ravageait semblait passer par ses rides comme par autant de crevasses labourées par une éruption volcanique. Ce fut un spectacle sublime.
« Eh bien, pourquoi vous arrêtez-vous » dit-elle d'une voix creuse. « Je serai pour vous tout ce que j'étais pour lui. Oh, je lui aurais donné tout mon sang.
Vous l'aimez donc ?
Comme s'il était mon enfant. »
« Eh bien, reprit Madame Marneff en respirant à l'aise, puisque vous ne l'aimez que comme ça, vous allez être heureuse, car vous le voulez heureux. »
Lisbeth répondit par un signe de tête rapide comme celui d'une folle.
« Il épouse dans un mois votre petite cousine. »«
Hortense ! » cria la vieille fille en se frappant le front et en se levant.
« Ah ça, vous l'aimez donc, ce jeune homme ? » demanda Madame Marneff.
« Ma petite, c'est entre nous à la vie à la mort, » dit Mademoiselle Fischer. « Oui, si vous avez des attachements, ils me seront sacrés. Enfin, vos vices deviendront pour moi des vertus. » car j'en aurais besoin, moi, de vos vices.
« Vous viviez donc avec lui ? » s'écria Valérie.
« Non, je voulais être sa mère. »«
Ah, je n'y comprends plus rien, » reprit Valérie.
« Car alors vous n'êtes pas jouée, ni trompée, et vous devez être bien heureuse de lui voir faire un beau mariage, le voilà lancé. D'ailleurs, tout est bien fini pour vous, allez. Notre artiste va tous les jours chez Madame Hulot, dès que vous sortez pour dîner. »
« Adeline !» se dit Lisbeth. « Oh, Adeline, tu me le payeras, je te rendrai plus laide que moi. »«
Mais vous voilà pâle comme une morte, » reprit Valérie. « Il y a donc quelque chose.
Oh, suis-je bête ! La mère et la fille doivent se douter que vous mettriez des obstacles à cet amour. La mère et la fille doivent se douter que vous mettriez des obstacles à cet amour, puisqu'ils se cachent de vous, » s'écria Madame Marneff. « Mais si vous ne viviez pas avec le jeune homme, tout cela, ma petite, est pour moi plus obscur que le cœur de mon mari. »«
Oh, vous ne savez pas, vous, » dit Lisbeth, « vous ne savez pas ce que c'est que cette manigance-là. C'est le dernier coup qui tue. En ai-je reçu des meurtrissures à l'âme ? Vous ignorez que depuis l'âge où l'on sent, j'ai été immolée à Adeline. » On me donnait des coups et on lui faisait des caresses. J'allais mise comme un souillon et elle était vêtue comme une dame. Je piochais dans le jardin, j'épluchais des légumes et elle, ses 10 doigts ne se remuaient que pour arranger des chiffons. Elle a épousé le baron. Elle est venue briller à la cour de l'empereur et je suis restée jusqu'en 1809 dans mon village. Attendant un parti sortable pendant 4 ans. Ils m'en ont tiré, mais pour me faire ouvrière et pour me proposer des employés, des capitaines qui ressemblaient à des portiers. J'ai eu pendant 26 ans tout leur reste. Et voilà que, comme dans l'Ancien Testament, le pauvre possède un seul agneau qui fait son bonheur et le riche qui a des troupeaux envie la brebis du pauvre et la lui dérobe, sans le prévenir, sans la lui demander. Adeline me filoute mon bonheur. Adeline, Adeline, je te verrai dans la boue et plus bas que moi. Hortense que j'aimais m'a trompée. Le baron, non, cela n'est pas possible. Voyons, redites-moi les choses qui là-dedans peuvent être vraies.
Calmez-vous, ma petite.
« Valérie, mon cher ange, je vais me calmer, » répondit cette fille bizarre en s'asseyant. « Une seule chose peut me rendre la raison. Donnez-moi une preuve.
Mais votre cousine Hortense possède le groupe de Samson, dont voici la lithographie, publiée par une revue. elle la payait de ses économies. Et c'est le baron qui, dans l'intérêt de son futur gendre, le lance et obtient tout.
De l'eau, de l'eau ! Demanda Lisbeth après avoir jeté les yeux sur la lithographie, au bas de laquelle elle lut « Groupe appartenant à Mademoiselle Hulot d'Hervy ».
De l'eau ! Ma tête brûle ! Je deviens folle !
Madame Marneffe apporta de l'eau, la vieille fille ôta son bonnet, défit ses cheveux noirs et se mit la tête dans la cuvette que lui tint sa nouvelle amie. Elle s'y trempa le front à plusieurs reprises et arrêta l'inflammation commencée. Après cette immersion, elle retrouva tout son empire sur elle-même.
« Pas un mot, » dit-elle à Madame Marneffe en s'essuyant, « pas un mot de tout ceci. Voyez, je suis tranquille et tout est oublié. Je pense à bien autre chose. »
« Elle sera demain à Charenton, c'est sûr, » se dit Madame Marneffe en regardant la Lorraine.
« Que faire ? » reprit Lisbeth. « Voyez-vous, mon petit ange, il faut se taire, courber la tête, et aller à la tombe, comme l'eau va droit à la rivière. Que tenterai-je ? Je voudrais réduire tout ce monde. Adeline, sa fille, le baron, en poussière. Mais que peut une parente pauvre contre toute une famille riche ? Ce serait l'histoire du pot de terre contre le pot de fer.
« Oui, vous avez raison, » répondit Valérie. « Il faut seulement s'occuper de tirer le plus de foin à soie du râtelier. Voilà la vie à Paris. »«
Et, » dit Lisbeth, « je mourrai promptement, allez, si je perds cet enfant, à qui je croyais toujours servir de mère, avec qui je comptais vivre toute ma vie. »
Elle eut des larmes dans ses yeux et s'arrêta. Cette sensibilité chez cette fille de soufre et de fer fit frissonner Madame Marneffe.
Eh bien, je vous trouve, dit-elle en prenant la main de Valérie, c'est une consolation dans ce grand malheur. Nous nous aimerons bien, et pourquoi nous quitterions-nous ? Je n'irai jamais sur vos brisées. On ne m'aimera jamais, moi. Tout ce qui voulait de moi m'épousait à cause de la protection de mon cousin. Avoir de l'énergie à escalader le paradis et l'employer à se procurer du pain, de l'eau, des guenilles et une mansarde. Ah, c'est là, ma petite, un martyr, j'y ai séché. »
Elle s'arrêta brusquement et plongea dans les yeux bleus de Madame Marneffe un regard noir qui traversa l'âme de cette jolie femme comme la lame d'un poignard lui eût traversé le cœur.
« Et pourquoi parler ? » s'écria-t-elle en s'adressant un reproche à elle-même. « Ah, je n'en ai jamais tant dit, allez. La triche en reviendra à son maître, » ajouta-t-elle après une pause, en employant une expression du langage enfantin. « Comme vous dites sagement, aiguisons nos dents et tirons du râtelier le plus de foin possible. »
« Vous avez raison, » dit Madame Marneffe, que cette crise effrayait et qui ne se souvenait plus d'avoir émis cet apophtègme. « Je vous crois dans le vrai, ma petite. » « Allez, la vie n'est déjà pas si longue, il faut en tirer parti tant qu'on peut, et employer les autres à son plaisir. J'en suis arrivée là, moi, si jeune. J'ai été élevée en enfant gâté, mon père s'est marié par ambition et m'a presque oubliée, après avoir fait de moi son idole, après m'avoir élevée comme la fille d'une reine. Ma pauvre mère, qui me berçait des plus beaux rêves, est morte de chagrin, en me voyant épouser un petit employé à 1200 francs, vieux et froid libertin à 39 ans, corrompu comme un bagne, et qui voyait en moi ce qu'on voyait en vous, un instrument de fortune. Eh bien, j'ai fini par trouver que cet homme infâme est le meilleur des maris. En me préférant les sales guenons du coin de la rue, il me laisse libre. S'il prend tous ses appointements pour lui, jamais il ne me demande compte de la manière dont je me fais des revenus. »
À son tour, elle s'arrêta, comme une femme qui se sent entraînée par le torrent de la confidence, et frappée de l'attention que lui prêtait Lisbeth, elle jugea nécessaire de s'assurer d'elle avant de lui livrer ses derniers secrets.
« Voyez, ma petite, quelle est ma confiance en vous ? » reprit Madame Marneffe, à qui Lisbeth répondit par un signe excessivement rassurant.
On jure souvent par les yeux et par un mouvement de tête, plus solennellement qu'à la cour d'assises.
« J'ai tous les dehors de l'honnêteté, » reprit Madame Marneff, en posant sa main sur la main de Lisbeth, comme pour en accepter la foi. « Je suis une femme mariée, et je suis ma maîtresse, à tel point que le matin, en partant au ministère, s'il prend fantaisie à Marneff de me dire adieu, et qu'il trouve la porte de ma chambre fermée, il s'en va tout tranquillement. Il aime son enfant, moins que je n'aime un des enfants en marbre, qui joue au pied d'un des deux fleuves aux Tuileries. Si je ne viens pas dîner, il dîne très bien avec la bonne, car la bonne est tout à monsieur, et tous les soirs, après le dîner, il sort pour ne rentrer qu'à minuit ou 1 heure. Finalement, depuis 1 an, me voilà sans femme de chambre, ce qui veut dire que depuis 1 an, je suis veuve. Je n'ai eu qu'une passion, un bonheur. C'était un riche Brésilien, parti depuis 1 an, ma seule faute. Il est allé vendre ses biens, tout réaliser pour pouvoir s'établir en France. Que trouvera-t-il de sa Valérie, un fumier? Bah, ce sera sa faute, et non la mienne. Pourquoi tarde-t-il tant à revenir? Peut-être aussi aura-t-il fait naufrage, comme ma vertu. Adieu, ma petite, dit brusquement Lisbeth. Nous ne nous quitterons plus jamais. Je vous aime et je vous estime. Je suis à vous. Mon cousin me tourmente pour que j'aille loger dans votre future maison, rue Vanneau. Je ne le voulais pas, car j'ai bien deviné la raison de cette nouvelle bonté.
Tiens, vous m'auriez surveillé, je le sais bien, dit Madame Marneff.
C'est bien là la raison de sa générosité, répliqua Lisbeth. À Paris, la moitié des bienfaits sont des spéculations, comme la moitié des ingratitudes sont des vengeances. Avec une parente pauvre, on agit comme avec des rats à qui l'on présente un morceau de lard. J'accepterai l'offre du baron, car cette maison m'est devenue odieuse. Ah ça, nous avons assez d'esprit toutes les deux pour savoir taire ce qui nous nuirait et dire ce qui doit être dit. Ainsi, pas d'indiscrétion et une amitié à toute épreuve, s'écria joyeusement Madame Marneff, heureuse d'avoir un porte-respect, un confident, une espèce de tante honnête.
« Écoutez, le baron fait bien les choses, rue Vanneau. »«
Je crois bien, » reprit Lisbeth. « Il en est à 30 000 francs. Je ne sais où il les a pris, par exemple, car Josépha, la cantatrice, l'avait saignée à blanc. « Ah, vous êtes bien tombée, » ajouta-t-elle. « Le baron volerait pour celle qui tient son cœur entre deux petites mains blanches et satinées comme les vôtres. »
« Eh bien, » reprit Madame Marneff, avec la sécurité des filles qui n'est que l'insouciance, « ma petite, dites donc, prenez de ce ménage-ci tout ce qui pourra vous aller pour votre nouveau logement, cette commode, cette armoire à glace, ce tapis, la tenture. »
Les yeux de Lisbeth se dilatèrent par l'effet d'une joie insensée. Elle n'osait croire à un pareil cadeau.
« Vous faites plus pour moi dans un moment que mes parents riches en 30 ans. » s'écria-t-elle. Ils ne se sont jamais demandé si j'avais des meubles. À sa première visite, il y a quelques semaines, le baron a fait une grimace de riche à l'aspect de ma misère. Eh bien, merci, ma petite. Je vous revaudrai cela. Vous verrez plus tard comment.
Valérie accompagna sa cousine Bette jusque sur le palier où les deux femmes s'embrassèrent.
Comme elle pue la fourmi, se dit la jolie femme quand elle fut seule. Je ne l'embrasserai pas souvent, ma cousine.
Cependant, prenons garde, il faut la ménager. Elle me sera bien utile, elle me fera faire fortune.
En vraie créole de Paris, Madame Marneff abhorrait la peine. Elle avait la nonchalance des chattes qui ne courent et ne s'élancent que forcées par la nécessité. Pour elle, la vie devait être tout plaisir, et le plaisir devait être sans difficulté. Elle aimait les fleurs, pourvu qu'on les lui fît venir chez elle. Elle ne concevait pas une partie de spectacle sans une bonne loge toute à elle et une voiture pour s'y rendre. Ses goûts de courtisane, Valérie les tenait de sa mère, comblée par le général Montcornet pendant les séjours qu'il faisait à Paris et qui, pendant 20 ans, avait vu tout le monde à ses pieds, qui, gaspilleuse, avait tout dissipé, tout mangé dans cette vie luxueuse dont le programme est perdu depuis la chute de Napoléon. les grands de l'Empire ont égalé, dans leur folie, les grands seigneurs d'autrefois. Sous la Restauration, la noblesse s'est toujours souvenue d'avoir été battue et volée. Aussi, mettant à part deux ou trois exceptions, est-elle devenue économe, sage, prévoyante, enfin bourgeoise et sans grandeur. Depuis, 1830 a consommé l'œuvre de 1793. En France, désormais, on aura de grands noms, mais plus de grandes maisons, à moins de changements politiques difficiles à prévoir. Tout y prend le cachet de la personnalité. La fortune des plus sages est viagère. On y a détruit la famille. La puissante étreinte de la misère qui mordait au sang de Valérie, le jour où, selon l'expression de Marneffe, elle avait fait Hulot, avait décidé cette jeune femme à prendre sa beauté pour moyen de fortune. Aussi, depuis quelques jours, éprouvait-elle le besoin d'avoir auprès d'elle, à l'instar de sa mère, une amie dévouée à qui l'on confie ce qu'on doit cacher à une femme de chambre, et qui peut agir, aller, venir, penser pour nous, une âme damnée enfin, consentant à un partage inégal de la vie. Or, elle avait deviné, tout aussi bien que Lisbeth, les intentions dans lesquelles le baron voulait la lier avec la cousine Bette. Conseillée par la redoutable intelligence de la créole parisienne qui passe ses heures étendue sur un divan à promener la lanterne de son observation dans tous les coins obscurs des âmes, des sentiments et des intrigues, elle avait inventé de se faire un complice de l'espion. Probablement, cette terrible indiscrétion était préméditée. Elle avait reconnu le vrai caractère de cette ardente fille, passionnée avide, et voulait se l'attacher. Aussi, cette conversation ressemblait-elle à la pierre que le voyageur jette dans un gouffre pour s'en démontrer physiquement la profondeur. Et Madame Marneffe avait eu peur en trouvant tout à la fois un Iago et un Richard III dans cette fille en apparence si faible, si humble et si peu redoutable. En un instant, la cousine Bette était redevenue elle-même. En un instant, ce caractère de corse et de sauvage, ayant brisé les faibles attaches qui le courbaient, avait repris sa menaçante hauteur, comme un arbre s'échappe des mains de l'enfant qu'il a plié jusqu'à lui pour y voler des fruits verts. Pour quiconque observe le monde social, ce sera toujours un objet d'admiration que la plénitude, la perfection et la rapidité des conceptions chez les natures vierges. La virginité, comme toutes les monstruosités, a des richesses spéciales, des grandeurs absorbantes. La vie dont les forces sont économisées a repris chez l'individu vierge une qualité de résistance et de durée incalculable. Le cerveau s'est enrichi dans l'ensemble de ses facultés réservées. Lorsque les gens chastes ont besoin de leur corps ou de leur âme, qu'ils recourent à l'action ou à la pensée, ils trouvent alors de l'acier dans leurs muscles ou de la science infuse dans leur intelligence, une force diabolique ou la magie noire de la volonté. Sous ce rapport, la Vierge Marie, en ne la considérant pour un moment que comme un symbole, efface par sa grandeur tous les types hindous, égyptiens et grecs. La virginité, mère des grandes choses, magna parens rerum, tient dans ses belles mains blanches la clé des mondes supérieurs. Enfin, cette grandiose et terrible exception mérite tous les honneurs que lui décerne l'Église catholique. En un moment donc, la cousine Bette devint le Mohican dont les pièges sont inévitables, dont la dissimulation est impénétrable, dont la décision rapide est fondée sur la perfection inouïe des organes. Elle fut la haine et la vengeance, sans transaction, comme elles sont en Italie, en Espagne et en Orient. Ces deux sentiments, qui sont doublés de l'amitié, de l'amour, poussés jusqu'à l'absolu, ne sont connus que dans les pays baignés de soleil. Mais Lisbeth fut surtout fille de la Lorraine, c'est-à-dire résolue à tromper. Elle ne prit pas volontiers cette dernière partie de son rôle.
elle fit une singulière tentative due à son ignorance profonde. Elle imagina que la prison était ce que les enfants l'imaginent tous. Elle confondit la mise au secret avec l'emprisonnement. La mise au secret est le superlatif de l'emprisonnement, et ce superlatif est le privilège de la justice criminelle.